Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Surianto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, jeudi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. Ses auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journaux, suivi du commentaire, aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente un rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre mission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Les importations de gaz de pétrole liquéfié au GPL de l'Iran de 500 000 de metric tonnes. Le président Jokowi espère que l'efficacité des prix peut être faite. Le partage d'expérience de la gestion des conflits aux ulémas de l'Afghanistan. L'Indonésie a contribué à aider les pays pauvres. L'Inde investit immédiatement dans le domaine pharmaceutique de 135 millions de dollars américains. Le gouvernement de Myanmar est demandé de restituer justement le cas de Rohingya. La Croix-Rouge de la Chine est la victime du séisme à Aceh. Voici le journal complet. En 2017, l'Indonésie va importer du gaz de pétrole liquéfié au GPL en provenance d'Iran à environ 500 000 metric tonnes. Et l'Iran va construire un mobile power plant en Indonésie à environ 5 000 MW. Avec la coopération de l'énergie, on peut faire l'efficacité du prix. Cela a été dit par le président Joko Widodo dans un communiqué de presse avec son homologue iranien Hassan Rouhani au Palais Sadabat à Téhéran mercredi. Après la signature d'un mémorandum de coopération dans le domaine de l'énergie faite par le ministre de l'énergie et des ressources minérales de l'Indonésie et de l'Iran. Lors de cette visite, le président est également accompagné par 60 chefs d'entreprise et les entrepreneurs de l'Indonésie. Ils sont engagés dans divers domaines et ont organisé des réunions d'affaires pour augmenter le commerce entre les deux pays. Le président Hassan Rouhani a déclaré son engagement à coopérer avec l'Indonésie. Il a également salué la proposition du gouvernement indonésien liée à la gestion des champs pétrolières en Iran. Le vice-président du Parlement de l'Indonésie, Fahri Hamzah, a partagé l'expérience de la gestion du conflit aux ulémas de l'Afghanistan qui a visité le Parlement indonésien mercredi dans le cadre de la série de l'atelier islamique « Leadership, le développement de la paix, l'étude et le dialogue ». Fahri Hamzah, qui a reçu la visite de 18 ulémas de l'Afghanistan au Parlement Jakarta, a déclaré « L'Indonésie était plus diversifiée, avec plus de 17 000 îles, plus de 1000 langues et plus de 700 tribus, l'Indonésie peut survivre. » Selon lui, l'Indonésie a une base et un système de paix solide, à savoir Pancasila. Il estime que les ulémas de l'Afghanistan sont intéressés à Pancasila, car Pancasila est une combinaison des idées religieuses et la nationalité. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a dit mercredi à Yogyakarta qu'en tant que membre de la Banque mondiale, le gouvernement indonésien contribuait maintenant à aider les pays pauvres. En outre, le gouvernement indonésien jouera le rôle de manière constructive, y compris rembourser des fonds qui ont été empruntés. L'Indonésie avait passé deux fois comme graduate country de l'Association internationale de développement, dans lequel l'Indonésie a fait un prêt à l'Association internationale en 1980 et 1998. Actuellement, l'Indonésie ne paye que les prêts hypothécaires qui ont été acceptés. Les versements hypothécaires ne pèseront pas le budget de l'État. Un certain nombre de sociétés pharmaceutiques de Londres ont convenu d'investir pour fonder une usine de matières premières médicinales d'un montant de 135 millions de dollars américains en deux étapes. Le chef du conseil coordinateur des investissements BKPM, Thomas Lembong, a déclaré mardi à New Delhi des centaines de coopérations très concrètes soulèvent lors d'une réunion entre le président Joko Widodo avec 20 PDG des sociétés connues en Inde. Mais une chose qu'il a souligné que le secteur pharmaceutique est plus concentré sur le capital de collaboration. Si bien qu'il n'y a pas de linéaire qui a une seule direction, ainsi ce n'est pas seulement de Londres qui investit en Indonésie, il y a la possibilité que l'Indonésie investisse à Londres. Thomas Lembong a également souligné que le secteur pharmaceutique est étroitement lié aux droits de propriété intellectuelle sur certaines formulations d'ordonnances de médicaments. Selon lui, la coopération dans le domaine de la pharmacie peut également créer des échelles d'économie afin que l'Indonésie puisse être en mesure d'accéder à des matières premières à des prix inférieurs. Le vice-président Yusuf Kala a déclaré que l'Indonésie, comme le pays avec la plus grande population musulmane dans le monde, a une obligation morale d'aider à résoudre le problème de la violence contre les Rohingyas au Myanmar. Il a souligné, le gouvernement du Myanmar doit résoudre justement les cas de violence à Rakhine. Yusuf Kala, après l'ouverture de la réunion des ulémas de l'ASEAN en 2016 à Bogor, l'ouest de Java, récemment expliqué, le gouvernement avait envoyé la ministre des Affaires étrangères, Retno Alpemarsudi, pour rencontrer la conseillère d'État du Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi. Cette réunion a eu lieu à Naypyidaw au Myanmar la semaine dernière. Selon lui, ce n'est pas seulement l'Indonésie qui a l'obligation de résoudre ce cas, mais d'autres pays de la région de l'Asie du Sud-Est ont également l'obligation d'aider à le résoudre. Dans sa rencontre avec Aung San Suu Kyi, la ministre Retno Alpemarsudi a souligné l'importance de réaliser un développement inclusif à Rakhine. L'Indonésie espère que le gouvernement du Myanmar assure la protection des minorités ethniques dans cette région. La Croix-Rouge chinoise s'est engagée à accorder 100 000 dollars américains pour aider les victimes du tremblement de terre en résidence de Pidijaya, Aceh. Cette aide a été accordée par l'ambassadeur de la Chine, Xi Feng, au président de la Croix-Rouge de l'Indonésie, Ginanjar Kartasasmita, mardi à Jakarta. Xi Feng a affirmé que sa partie condoléance sur la survenance du tremblement de terre. Cette aide peut être utilisée pour les besoins de victimes, y compris la reconstruction post le tremblement de terre dans cette région. Il a affirmé qu'il y avait d'autres aides d'un million de dollars américains qui seraient distribuées via le gouvernement indonésien. Pendant ce temps, Ginanjar a remercié pour cette aide. Selon lui, son aide est prioritaire pour l'eau potable. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Sergio Blanten, comme d'habitude, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire. Et pour le titre, le cas d'Ahok, la diversité et l'application de la loi. Au cours des derniers mois, le cas de blasphème touchant Basuki Cahaya Purnama, connu sous le nom d'Ahok, a attiré l'attention du public indonésien et même dans le monde. Le cas est largement connu non seulement parce qu'il est un fonctionnaire public qui se présente à l'élection présidentielle régionale en 2017, mais aussi en raison des antécédents de cette affaire qui a des antécédents de tribu, religion, race, intergroupe ou Sahara. L'accent est mis sur Ahok qui était accusé de dégrader la religion islamique indonésienne. L'évolution récente de cette affaire est Ahok est en cours de procédure devant le tribunal. L'Indonésie a toujours été hantée par les sentiments raciaux. En fait, il a enregistré un certain nombre d'histoires sombres de la nation au début de l'ère de la réforme, lorsque des conflits raciaux à grande échelle ont eu lieu dans au moins deux régions, Espérons que le conflit a finalement pu être résilié et ne s'est pas propagé à d'autres domaines. Cependant, le traumatisme du conflit continue de faire obstacle. Il n'est pas surprenant que dans de nombreux cas, les parties prenantes continuent à rappeler à la nation entière de faire les tragédies qui se sont produites comme une leçon importante et espérons que le même événement ne se produit pas. Les Indonésiens devraient être conscients que la nation est destinée à être très diversifiée. Le pays se compose de centaines de tribus, la culture et les coutumes, les religions et les croyances. En effet, les efforts de sensibilisation doivent être suivis d'un esprit de tolérance, de respect mutuel et de tolérance. Mais pas encore à 100% à l'abri des petites nuances, ondulations des relations tribales, religieuses, raciales et entre groupes, ou SARA. En outre, dans une démocratie est aussi ouverte, il peut y avoir une personne qui utilise cette question pour obtenir un avantage unilatéral. Dans une plus ou moins la même chose, quelque chose comme cela se produit non seulement en Indonésie, mais aussi dans l'autre hémisphère. Alors, qu'est-ce que doit faire? Le régime sud-africain a mis fin au système d'apartheid qui a commencé depuis le début du XXe siècle jusqu'en 1990. Le gouvernement, avec n'importe quelle idéologie, maintenant ne veut pas être appelé d'effectuer une politique discriminatoire à son peuple. La loi est devenue le commandant, bien sûr, sur la base des opinions politiques et l'idéologie de leur pays respectif. En Indonésie, on s'attend à ce que l'autorité chargée de l'application de la loi prévienne les divisions causées par les conflits avec les nuances des relations tribales, religieuses, raciales et intergroupes. La solution par intermédiaire les voies légales est considérée comme le meilleur chemin. Bien que des efforts préemptifs simples et bon marché puissent également être faits, comme par le biais des exemples des dirigeants de garder sa langue, parce que cela pourrait facilement être un écart de conflit. L'attitude et le comportement des dirigeants est considéré comme un investissement et un impact significatif sur le long terme et de préserver et de déterrer les valeurs nobles en Indonésie et dans le monde. Chers auditeurs, c'est le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ces amis des quatre coins du monde, voici le programme d'aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie, l'édition du 15 décembre. Nous commençons au 15 décembre 1973, la fondation des monuments Palagan à Ambarawa. Le monument de Palagan, Ambarawa, a été construit à Ambarawa, la préfecture de Semara, en province de Java centrale, Indonésie, au 15 décembre 1973. Et inauguré officiellement au 15 décembre 1974 par le président Suharto. Ce monument est un symbole de la lutte Palagan-Ambarawa au 12 à 15 décembre 1945 sous dirigeant le colonel Sudirman. Grâce aux tactiques militaires connues sous Pit Urang, les troupes indonésiennes ont réussi à remporter la ville d'Ambarawa des troupes alliées ainsi que les Hollandais. L'auto-événement qui se déroule au 15 décembre et les 10 pays membres d'ASEAN ont été signés la fondation de la zone libre nucléaire de l'Asie du Sud-Est au 15 décembre 1995. La zone libre nucléaire à l'Asie du Sud-Est est un accord signé par 10 pays membres d'ASEAN tels que Brunei Darussalam, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, la Birmanie, la Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Cet accord a pour but de protéger cette zone de la nucléaire. Le 29 juillet 2007, ASEAN a adopté le plan d'action de cette initiative pour accélérer la zone libre nucléaire en Asie du Sud-Est. L'idée de cette fondation est commencée au 27 novembre 1971 lors des 5 pays membres d'ASEAN se sont réunis à Kuala Lumpur, en Malaisie, pour déclarer la zone d'ASEAN et celle de la pays, de la liberté et la neutralité. Plus tard, cet accord a été signé au 15 décembre 1995. Nous terminons notre programme d'aujourd'hui dans l'histoire avec l'événement au 15 décembre 2007. La conférence de l'ONU pour le changement climatique à Nusa Dua, Bali, a formulé Bali Roadmap. La conférence de l'ONU pour le changement climatique auparavant était presque échouée. Cette conférence est destinée pour la préparation de la fin de la protocole de Kyoto en 2012. C'est des rôles durs, car les États-Unis, le Canada et l'Australie sont contre pour elle proposée par les pays européens et les autres pays mondiaux. Après la grande sévère critique des pays participants, les délégués américains, australiennes et canadiennes ont accepté le projet de déclaration de Bali. Alors, au 15 décembre 2007, toutes les délégués ont publié la forme compréhensive KUNU Bali Roadmap qui continuerait la suite conférence de Copenhague au Danemark. Ces amis d'un catégorie du monde, c'était le programme aujourd'hui dans l'histoire ce soir. Merci beaucoup de votre attention et fidélité. Au revoir et à demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée Le vice-président Yusuf Kalla a ouvert une réunion des ulémas de l'ASEAN à Bogor, Java West, l'Indonésie. Le vice-président Yusuf Kalla invite les ulémas et les écoles islamiques ou le pesantren à promouvoir l'islam modéré en Indonésie dans le monde international. Il a été déclaré par le vice-président à Bogor mardi à l'ouverture de la réunion des ulémas de l'ASEAN en 2016 avec le thème Améliorer l'islam modéré via un réseau de pesantren. Yusuf Kalla a déclaré dans son discours, le thème est non seulement discuté, mais aussi réalisé ensemble pour l'unité de l'ASEAN. Le vice-président a également remercié les ulémas et les enseignants de pesantren qui ont consacré toute forme d'esprit pour le bien-être de la nation qui est civilisée. Le vice-président en question, autrefois les étudiants indonésiens ont appris l'islam au Moyen-Orient. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore pertinent au milieu des conflits dans les pays arabes? Selon le vice-président, le développement de l'islam dans ce pays et dans la région de l'ASEAN se développe bien, à la fois la science et la pratique de l'islam sous la forme de la culture, les produits culturels et le système socio-politique et économique. L'islam est né et développé dans ce pays avec les motifs spécifiques, modérés et accommodant à la culture locale en continuant à promouvoir les valeurs universelles de l'islam. L'Indonésie peut être la cible de la pensée et l'exemple de pratiques islamiques étant wasatiyah. Ces valeurs doivent être promues en continu dans le monde international, a déclaré Yusuf Kalla. Le ministre indonésien des Affaires religieuses, M. Lukman Hakim Saifuddin, demande aux participants de la réunion des ulémas de l'ASEAN à développer l'islam modéré. Cette époque exige toutes les parties jouent leur rôle, notamment dans la diffusion des valeurs de l'islam modéré étant adoptées par la communauté de l'ASEAN. Le ministère des Affaires religieuses, à travers l'Agence pour la recherche et la formation et l'éducation, ont déjà fait des diverses activités, y compris en 2016. On a organisé l'atelier de manuscrits des ulémas Nusantara de l'Asie du Sud, en impliquant la Malaisie, Brunei Darussalam, le sud de la Thaïlande, les Philippines et Singapour. Selon M. Lukman Hakim, si les activités de l'atelier manuscrit de l'ASEAN comme une forme de l'excavation du patrimoine intellectuel de l'islam, la réunion des ulémas de l'ASEAN est dirigée vers le côté institutionnel de l'éducation. La réunion des ulémas de l'ASEAN a duré pendant 3 jours et participé par 150 participants. Il se compose des enseignants de psantren dans l'ASEAN, les ambassadeurs du Conseil religieux de Brunei Darussalam, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, des ulémas, les universitaires, des fonctionnaires, des membres du parlementaire, des représentants des étudiants étrangers et aussi les dirigeants communautaires liés à l'éducation religieuse, y compris les ambassadeurs et chefs de représentants. Chers amis, c'était la mise au point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
En 2017, l'Indonésie va importer du gaz de pétrole liquéfié au GPL en provenance d'Iran à environ 500 000 metric tonnes et l'Iran va construire un mobile power plant en Indonésie à environ 5 000 MW. Avec la coopération de l'énergie, on peut faire l'efficacité du prix. Cela a été dit par le président Joko Widodo dans un communiqué de presse avec son homologue iranien Hassan Rouhani au palais Sadabat à Téhéran mercredi. Après la signature d'un mémorandum de coopération dans le domaine de l'énergie faite par le ministre de l'énergie et des ressources minérales de l'Indonésie et de l'Iran. Lors de cette visite, le président est également accompagné par 60 chefs d'entreprise et les entrepreneurs de l'Indonésie. Ils sont engagés dans divers domaines et ont organisé des réunions d'affaires pour augmenter le commerce entre les deux pays. Le président Hassan Rouhani a déclaré son engagement à coopérer avec l'Indonésie. Il a également salué la proposition du gouvernement indonésien liée à la gestion des champs pétrolières en Iran. Le vice-président du Parlement de l'Indonésie, Fahri Hamzah, a partagé l'expérience de la gestion du conflit aux ulémas de l'Afghanistan qui a visité le Parlement indonésien mercredi dans le cadre de la série de l'atelier islamique « Leadership, le développement de la paix, l'étude et le dialogue ». Fahri Hamzah, qui a reçu la visite de 18 ulémas de l'Afghanistan au Parlement Jakarta, a déclaré « L'Indonésie était plus diversifiée, avec plus de 17 000 îles, plus de 1 000 langues et plus de 700 tribus, l'Indonésie peut survivre. » Selon lui, l'Indonésie a une base et un système de paix solide, à savoir Pancasila. Il estime les ulémas de l'Afghanistan sont intéressés à Pancasila car Pancasila est une combinaison des idées religieuses et la nationalité. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a dit mercredi à Yogyakarta qu'en tant que membre de la Banque mondiale, le gouvernement indonésien contribuait maintenant à aider les pays pauvres. En outre, le gouvernement indonésien jouera le rôle de manière constructive, y compris rembourser des fonds qui ont été empruntés. L'Indonésie avait passé 2 fois comme graduate country de l'Association internationale de développement, dans lequel l'Indonésie a fait un prêt à l'Association internationale en 1980 et 1998. Actuellement, l'Indonésie ne paye que les prêts hypothécaires qui ont été acceptés. Les versements hypothécaires ne pèseront pas le budget de l'État. Un certain nombre de sociétés pharmaceutiques de Londres ont convenu d'investir pour fonder une usine de matières premières médicinales d'un montant de 135 millions de dollars américains en 2 étapes. Le chef du conseil coordinateur des investissements BKPM, Thomas Lembong, a déclaré mardi à New Delhi des centaines de coopérations très concrètes soulèvent lors d'une réunion entre le président Joko Widodo avec 20 PDG des sociétés connues en Inde. Mais une chose qu'il a souligné que le secteur pharmaceutique est plus concentré sur le capital de collaboration. Si bien qu'il n'y a pas de linéaire qui a une seule direction, ainsi ce n'est pas seulement de l'Inde qui investit en Indonésie, il y a la possibilité que l'Indonésie investit à l'Inde. Thomas Lembong a également souligné que le secteur pharmaceutique est étroitement lié aux droits de propriété intellectuelle sur certaines formulations d'ordonnances de médicaments. Selon lui, la coopération dans le domaine de la pharmacie peut également créer des échelles d'économie afin que l'Indonésie puisse être en mesure d'accéder à des matières premières à des prix inférieurs. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que l'Indonésie, comme le pays avec la plus grande population musulmane dans le monde, a une obligation morale d'aider à résoudre le problème de la violence contre les Rohingyas au Myanmar. Il a souligné que le gouvernement du Myanmar doit résoudre justement les cas de violence à Rakhine. Youssouf Kalla, après l'ouverture de la réunion des ulémas de l'ASEAN 2016 à Bogor, l'ouest de Java, récemment expliqué, le gouvernement avait envoyé la ministre des Affaires étrangères, Retno Alpemarsoudi, pour rencontrer la conseillère d'État du Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi. Cette réunion a eu lieu à Naypyidaw, au Myanmar, la semaine dernière. Selon lui, ce n'est pas seulement l'Indonésie qui a l'obligation de résoudre ce cas, mais d'autres pays de la région de l'Asie du Sud-Est ont également l'obligation d'aider à le résoudre. Dans sa rencontre avec Aung San Suu Kyi, la ministre Retno Alpemarsoudi a souligné l'importance de réaliser un développement inclusif à Rakhine. L'Indonésie espère que le gouvernement du Myanmar assure la protection des minorités ethniques dans cette région. La Croix-Rouge chinoise s'est engagée à accorder 100 000 dollars américains pour aider les victimes du tremblement de terre en résidence de Pidijaya, Aceh. Cette aide a été accordée par l'ambassadeur de la Chine, Xi Feng, au président de la Croix-Rouge de l'Indonésie, Ginanjar Kartasasmita, mardi à Jakarta. Xi Feng a affirmé que sa partie condoléance sur la survenance du tremblement de terre. Cette aide peut être utilisée pour les besoins de victimes, y compris la reconstruction post le tremblement de terre dans cette région. Il a affirmé qu'il y avait d'autres aides d'un million de dollars américains qui sera distribuée via le gouvernement indonésien. Pendant ce temps, Ginanjar a remercié pour cette aide. Selon lui, son aide est priorité pour l'eau potable. Cher éditeur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours des nouvelles phrases qu'on vous propose à la Voix de l'Indonésie. Passons maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Java West. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la Voix d'Indonésie. Pelabuhan Ratu est la capitale du district Sukabumi. Il est sur la côte de l'océan Indien. Pelabuhan Ratu est devenu l'une des destinations touristiques préférées à Java West. La ville a un certain nombre d'attractions qui sont divisées en catégorie de l'écotourisme, le tourisme sportif et le tourisme religieux. Cependant, la plupart des voyageurs viennent pour profiter des attractions naturelles de Pelabuhan Ratu, en particulier les belles plages. Cette fois, nous vous invitons à voir la beauté de la plage Citepus. L'emplacement est dans le village Citepus, district Pelabuhan Ratu. Pour aller à la plage Citepus, la distance du centre-ville est d'environ 3 km. Le voyage de Jakarta prend environ 7 à 8 heures en utilisant le transport terrestre. L'emplacement de la plage Citepus est tout à fait stratégique car il se trouve au bord de l'autoroute. Pour entrer dans cette zone touristique, vous ne payez que 30 000 rupiah pour un billet de parking de voiture. En arrivant sur ces rives, vous serez surpris par la beauté du paysage naturel de Citepus et sa propreté. La longueur des lignes de la place Citepus est d'environ 3 à 5 km. Un lit de sable est assez spacieux avec une forme de surface inclinée. L'eau est claire avec des vagues assez grandes. Il y a de nombreuses activités intéressantes sur cette plage. Il peut y nager ou jouer d'eau. Vous pouvez également vous détendre sur le sable mou.
Pour ceux d'entre vous qui aiment la pêche, dans d'autres parties de cette plage, il y a un endroit spécial pour la pêche. Si la veille, ne vous précipitez pas à la maison parce que la beauté du coucher du soleil est dommage à manquer. En fait, parce que si beau panorama du coucher du soleil, la plage est devenue l'une des destinations des couples qui veulent passer la lune de miel. La plage Titepus est complétée par de diverses facilités. Il y a l'hébergement, les toilettes publiques, les restaurants et les colporteurs de souvenirs. Le logement à Titepus est situé autour de la plage. Le prix pour passer la nuit n'est pas cher. À un coût de 200 000 par nuit, vous pouvez rester confortablement. Pour le dîner, il y a les restaurants avec un menu de fruits de mer. C'est intéressant, ce lieu de manger a une vue directe sur la plage. La plage est également équipée avec la petite mosquée, parking, jardin et piste de jogging. Avec la piste de jogging, vous pouvez également courir autour de la plage Titepus tout en profitant de sa beauté. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs dans le monde entier, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur. Le 29 avril, la Journée internationale de la danse est un moment pour la communauté internationale de présenter la beauté de la danse de chaque culture. Concernant la commémoration de la Journée internationale de la danse, l'Indonésie en couleur pour ce soir a pour thème Solo 24 heures de danse qui présente les danses d'autres pays comme le Japon, le Mexique et a fini à l'Indonésie. La représentation de ces danses voulait inviter le public ainsi que les visiteurs de voyager au monde entier. Sergiteur, le gamelan sonné solennellement de pendopo au grand pavillon ouvert de l'Institut de l'Art d'Indonésie, Solo. En plus des batteurs de gamelan, il y a aussi d'autres groupes dont tous sont les étudiants de l'Institut de l'Art d'Indonésie ici. Ces étudiants pratiquaient la danse pour être présentés à l'événement de la Journée mondiale de la danse en 2016 qui avait commencé le jeudi 28 avril à 14h jusqu'à vendredi 29 avril 2016 à 14h. Cette année, il y a des activités spéciales post-événement sous la forme de diverses présentations de danse à même 30h. L'emplacement à cette année est même que l'année précédente, à savoir sur la rue Jenderal Sudirman, la rue Slamet Riyadi et un certain nombre d'endroits au complexe de campus d'ici Solo, comme Pendopo ou grand pavillon ouvert d'ici Solo, un petit théâtre, un grand théâtre, le théâtre Umar Dini, le théâtre de navire et un certain nombre des endroits est utilisé comme la scène pour les danseurs de démontrer leur habileté à cet événement. Dans la 10e mise en œuvre, Solo 24 heures de danse implique un total de milliers de danseurs de différentes villes à travers les pays. Les participants de l'Indonésie proviennent de Sumatra, Java, Kalimantan et Sulawesi. Pendant ce temps, les participants étrangers proviennent de Chine et de la Malaisie. Le nombre total de ses participants cette fois est plus grand que le nombre de participants à l'événement précédent. Solo 24 heures de danse est indirectement la célébration miniature de la Journée mondiale de la danse qui tombe le 29 avril. D'environ 250 délégués de communautés de danse présenteront diverses danses de leurs régions respectives, mais aussi les danses d'un certain nombre de pays dans le monde. Pour animer cette journée internationale, il y a aussi de très activités comme l'exposition des photos de danse et des projections de films autour de la danse. La Journée mondiale de la danse est célébrée internationalement comme la commémoration de l'anniversaire de figure de danse de ballet moderne Jean-Georges Nauvert, 29 avril 1727. Depuis l'an 1982, l'UNESCO décide 29 avril comme Journée mondiale de la danse et a consacré comme une forme de convivialité des danseurs dans le monde pour construire un espace d'expression. Serviteur, c'était l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant divertissement avec la couleur de la musique indonésienne qui vont vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, serviteurs de la voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la voix d'Indonésie. Voici le programme musical qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour cette édition, je vous présente un chanteur de pop nommé Didi Kempot. Bon serviteur, voici sa première chanson intitulée Ancienne Église. Bonne écoute.
Sama di sama.
Sarita, c'était la chanson de Didi Kempot intitulée « Ancienne église ». Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ce.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de Nizi sur Facebook « Voice of Indonesia » ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Didi Prasetyo, ou mieux connu comme Didi Kempot, a commencé sa carrière en tant que chanteur de Champursari au centre de Java. Champursari est un mélange de la musique ronchon et la musique dangdut. Didi Kempot, le fils d'un célèbre défunt comédien, Ranto Edi Gudel, mieux connu sous le nom de Mbah Ranto. Dans le centre de Java, Didi Kempot est un chanteur fier de la ville de Solo. En plus d'autres chanteurs fiers comme Gesang, maestro de Kronchong, et Tia, champion de concours de chant Afi. À l'heure actuelle, Didi Kempot préfère rester dans le quartier Sumber à Solo, le centre de Java. Bon, serviteur, voici la chanson suivante de Didi Kempot intitulée Le long de la rue Mémoire. Bonne écoute.
Mama mia, Fidèles auditeurs, auditrices, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec un chanteur de pop, Didi Kempot. Grâce à sa lutte et sa persévérance, Didi Kempot a finalement gagné son rêve de devenir un chanteur célèbre à Jakarta qui chante spécialement des chansons kroncong mélangées avec la musique campursari. Enfin, Didi Kempot n'est pas seulement connu dans le pays, mais à des pays étrangers comme le Suriname et il est invité à faire le concert là-bas. Il s'avère que la diaspora javanaise au Suriname conserve encore le patrimoine culturel et les traditions ancestrales dans leur vie quotidienne. Donc, pas étonnant que la tendance de la musique des chansons et du style de la mode préférés par les citoyens de Suriname sont orientés vers Java, en Indonésie. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Didi Kempot intitulées Orchidée et l'histoire d'une hôtesse. Bonne écoute et au revoir.
Oh,
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis, c'est la fin de notre émission en français de la Voix de l'Indonésie ce soir. Donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez de quatre coins du monde. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 10011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.